affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux orientalistes français. Depuis 200 ans, ces savants se réunissent au sein d'une institution commune, la Société Asiatique, qui tient ses réunions ici, chaque mois, dans le palais de l'Institut de France. Nous allons donc essayer de comprendre comment ces chercheurs ont contribué à notre connaissance des langues et des civilisations d'Orient, c'est-à-dire de contrées lointaines qui s'étendent de l'Afrique du Nord à l'Extrême-Orient. C'est une histoire semée de découvertes et de personnalités extraordinaires tout au long des 19e et 20e siècles, et elle continue aujourd'hui. Pour en parler, je suis en compagnie de François Desroches, qui préside aujourd'hui cette société asiatique. Il est islamologue et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Bonjour François Desroches.
Bonjour.
Alors, la société asiatique est créée le 1er avril 1822 et elle naît sur un terreau qui est déjà favorable en France. On s'intéressait par exemple à la Chine depuis longtemps, on le voit déjà sous la société d'Ancien Régime. La campagne d'Égypte de Bonaparte a aussi éveillé beaucoup d'intérêt. Elle ne sort pas de nulle part, cette société.
Alors, effectivement, l'orientalisme existe avant la société asiatique dans la mesure où ses origines peuvent, disons, grosso modo, remonter jusqu'au XVIe siècle, au moment où on commence à s'intéresser aux langues de l'Orient, d'abord comme moyen d'accéder à la Bible. Le texte hébreu, bien sûr, est connu, mais on se rend compte que d'autres versions du texte biblique existent, et on commence donc à s'intéresser à ces langues, le syriaque, l'arabe, et de fil en aiguille, bien sûr, le champ d'intérêt s'étend. C'est également l'époque des grandes découvertes, des relations directes avec la Chine. Alors bien sûr, Marco Polo était déjà passé par là, mais les relations changent de nature dans la mesure où les échanges s'intensifient. L'Espagne mène ce mouvement de découverte et d'implantation dans des contrées lointaines, et ces contacts amènent vers l'Europe, d'une part, des informations sur des pays que l'on connaissait très mal, et l'envie de les connaître davantage pour diverses raisons. Donc, disons, au noyau initial de langues sémitiques qui correspondent au bassin de la Méditerranée s'ajoutent les langues de l'Inde, celles de la Chine et plus tard du Japon.
Alors, quelle est la nouveauté en 1822 ? C'est l'idée d'institutionnaliser toutes ces recherches, cette soif de connaissances ?
Alors, ce qui a pu aussi jouer, c'est que une première société asiatique installée en Inde, la Royal Asiatic Society of Bengal, a été fondée à la fin du XVIIIe siècle et représente alors un effort qui est bien sûr plus concentré sur l'Inde, mais qui montre l'intérêt, disons, d'une mutualisation des connaissances disponibles. L'étude des langues, les traductions aussi, parce que c'est quelque chose qui va jouer un rôle important dans la fondation de la société asiatique, anime ces savants. Et en France, des circonstances un petit peu différentes. Vous avez mentionné la campagne d'Égypte qui a transformé la nature des liens entre les savants et l'Égypte, la naissance de l'égyptologie, puisque cette année est également celle du début du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Donc on voit progressivement éclore de nouveaux domaines qui demande justement à ce que les compétences soient mises en contact les unes avec les autres. Et au sein de cette société asiatique, on se propose précisément de faire cela, de se réunir pour parler de problèmes scientifiques, mais également pour discuter, parce que les échanges vont stimuler telle ou telle recherche, mettre à la disposition de gens qui sont spécialistes d'un domaine des méthodologies, des compétences qui sont propres à un autre domaine.
Nous sommes alors dans l'âge d'or des sociétés savantes.
De toute façon, c'est effectivement un âge d'or des sociétés savantes. Le 19e siècle donne à ces diverses sociétés, à commencer par l'Académie, mais aussi la société asiatique, une place importante. On en parle dans la presse. Et duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, est parmi les fondateurs de la société asiatique.
Il y a donc ce parrainage de prestige. On retrouve d'ailleurs très présente l'aristocratie de la restauration parmi les premiers membres et un mélange finalement de personnalités en vue et puis de savants compose cette première société.
C'est effectivement, on pourrait dire que, disons, dans la société asiatique, il y a d'une part des savants de type traditionnel, si l'on veut, et d'autre part, ce que l'on appellerait de nos jours des décideurs. Alors, l'un d'entre eux qui meurt justement cette année, mais enfin qui a participé à la fondation, le duc de Richelieu, est un des membres de la société asiatique et justement, il a l'avantage d'avoir exercé une partie de son activité en Russie et d'avoir été donc en contact, puisqu'il était dans le sud de la Russie, il était en contact avec des orientaux et cela permet d'établir, disons, une cohérence au sein de cette union entre, d'une part, les savants et, d'autre part, un monde plus politique et mondain, mais intéressé par les affaires de l'Orient.
Alors, le premier président, votre prédécesseur, s'appelle Sylvestre de Sacy. C'est une personnalité hors du commun. Est-ce que vous pouvez nous la présenter parce qu'il n'est pas tellement connu du grand public ?
Alors, Sylvestre de Sacy est effectivement un personnage qui m'impressionne encore aujourd'hui puisque, comme vous le savez, dans la salle des séances, il est juste en face de la tribune. Et donc, quand il m'arrive d'être là, j'ai l'impression que Sylvestre de Sacy me regarde des hauteur. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a une stature exceptionnelle. Il est arabisant, bien sûr, mais il est également un très bon connaisseur du persan. Il a étudié les langues orientales, sémitiques, hébreux, syriaques, etc. Alors c'est un homme d'ancien régime. Il a été formé à la fin du règne de Louis XVI. Pendant la Révolution, il prendra un petit peu de distance parce qu'il est royaliste dans l'âme et il ne veut pas prêter serment. Donc il participe à la fondation de l'école des langues orientales, mais finalement il n'y entre pas parce qu'il ne veut pas avoir des obligations vis-à-vis du régime révolutionnaire. Napoléon réussira à l'attirer, même si sans doute Sylvestre de Sacy avait en son fort intérieur des réserves. Mais enfin, il devient à ce moment-là un personnage considérable. Il est au Collège de France, il est un petit peu partout, et il est à ce moment-là en Europe l'arabisant le plus en vue, l'orientaliste le plus connu, et il est intéressant parce que justement il donne d'emblée à la société asiatique cette dimension européenne dont elle a besoin. Alors c'est vrai que à cette époque, à Paris, on a un certain nombre d'étrangers qui sont venus s'installer à Paris, qui sont des orientalistes, notamment je pense à un certain nombre d'Allemands, qui vont faire carrière en France et qui se retrouvent donc, par le biais de la société asiatique, intégrés dans le milieu intellectuel français et parfois vont faire de belles carrières. Alors Sylvestre de Sacy publie énormément, c'est un grand découvreur, par exemple c'est un de ceux, et même la personne qui remet sur le devant de la scène un personnage aussi emblématique qu'Ibn Khaldun, dont il commence à parler. Alors bien sûr, par la suite, on va poursuivre son travail de découverte des textes d'Ibn Khaldun, mais pour vous donner une idée, c'est lui qui, en composant sa chrestomathie arabe, intègre des textes d'Ibn Khaldun pour donner aux étudiants et d'une manière plus générale à un large public, parce que la chrestomathie comprend aussi des traductions, donner un accès à ces textes qui, pour le grand public, sont encore mystérieux. Maintenant, on n'a pas de problème à aller dans une librairie et acheter des traductions de toute une série d'œuvres. À l'époque, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Et encore une fois, on en revient à l'une des missions que se fixe la société asiatique, qui est justement de donner accès, de traduire de manière à ce qu'un plus grand public puisse prendre connaissance de ce que sont les littératures de l'Orient.
Et cela commence par l'étude de langue, la création de dictionnaires, de grammaire, le déchiffrement de certaines langues qui nous étaient jusque-là inaccessibles. Nous sommes d'ailleurs à un moment, vous avez évoqué Champollion, mais nous sommes aussi à un moment où on fait le rapprochement entre les langues européennes et des langues venues du continent asiatique, ce qu'on appelle aujourd'hui les langues indo-européennes.
Tout à fait. Alors c'est une époque effectivement très féconde. Vous avez mentionné les travaux donc de Bob sur l'indo-européen. C'est un Allemand, mais ce sont des idées qui voyagent très vite. Et donc les différents spécialistes des langues de l'Inde, par exemple, travaillent beaucoup sur ces questions et élaborent à la fois des éditions de textes. C'est très important, puisque à l'époque, on a encore assez peu de textes disponibles sous cette forme. Beaucoup sont encore manuscrits, et c'est également un moment où, en Europe, on commence à acquérir de manière considérable des manuscrits, aussi bien en arabe qu'en sanskrit. Et la bibliothèque royale à l'époque, ce qui est l'ancêtre de la Bibliothèque nationale de France, voit ses fonds orientaux augmenter de manière phénoménale au cours du 19e siècle, et avec des gens qui sont également membres de la société asiatique, donc qui sont très au courant de ce qui se discute dans les cercles orientalistes, et qui procèdent donc à des achats destinés en partie à répondre à ces besoins. L'autre aspect, c'est bien sûr la publication et l'élaboration de fontes de caractères qui jusqu'à présent ne sont pas représentées. Bon, l'arabe est imprimé en Europe depuis longtemps, depuis le 16e siècle, mais les langues de l'Inde ne le sont pas depuis très longtemps, et parfois n'ont pas de fonte. Le chinois a commencé à être imprimé, mais les choses s'accélèrent et s'élargissent à de nouvelles langues, à commencer par l'égyptien, qui demande la création de fontes pour les hiéroglyphes.
Alors, ce qui est intéressant avec toutes ces langues, c'est que de nouvelles disciplines apparaissent sous l'aile protectrice, on pourrait dire, de la société asiatique, par exemple la syriologie, la turcologie.
Oui, les découvertes se multiplient. L'accès aussi à l'Orient change. Hein. La campagne d'Égypte a été en quelque sorte un déclencheur de tentatives pour connaître le passé de régions qui jusqu'à présent étaient connues par des voyageurs, mais restait quand même assez distante. Au XIXe siècle, on va pouvoir monter des opérations d'archéologie. Alors, l'Égypte est bien sûr un terrain particulièrement favorable, d'autant plus que les conditions politiques font qu'il va être beaucoup plus facile d'y travailler que ça n'était le cas précédemment. Mais l'Empire ottoman aussi s'ouvre à ce genre de tentatives. La syriologie va en être le bénéficiaire, même si les conditions de travail des pionniers de la syriologie sont bien sûr encore extrêmement difficiles. On se souvient qu'une partie des résultats des fouilles de Khorsabad sont allés au fond du Tigre parce qu'il y a eu une attaque de Bédouins au cours du transfert et les objets ont été perdus. Donc ça n'est pas forcément toujours très facile, mais on accumule patiemment le matériel et on découvre des choses absolument passionnantes. C'est à ce moment-là où on se rend compte que finalement, grâce au cunéiforme, la littérature biblique a des ancêtres ou des parallèles dans la littérature assyrienne, babylonienne, etc. Donc ce sont des choses qui animent beaucoup les gens à découvrir et on parle énormément à Paris, dans les milieux, mondains, de ces découvertes qui font l'actualité de la société asiatique qui reste toujours liée, même si à ce moment-là, elle a un lieu de séance distinct, elle est très liée, bien sûr, à l'Institut, dans la mesure où beaucoup de ces savants sont également des académiciens.
Alors, nous avons beaucoup parlé des langues, vous avez commencé à évoquer l'archéologie, parce qu'il y a aussi des missions sur le terrain qui sont soutenues par cette société asiatique. Et l'une des premières missions, c'est celle du consul de Mossoul, qui est nommé en 1842, Paul-Émile Botta, qui sera suivi vraiment de près par la société asiatique et son journal.
Alors, oui, à cette époque, la société asiatique était plus riche qu'elle ne l'est maintenant. Bon, les aléas de l'histoire ne lui ont pas toujours été favorables, mais effectivement, l'un de ses rôles a été de soutenir des activités scientifiques, en particulier donc archéologiques, au Proche-Orient, ce qui a permis de disposer, justement, parce que les gens sont avides d'avoir de la documentation sur laquelle travailler, et cette documentation, il faut aller parfois la chercher de cette manière. Plus tard, on aura d'autres opérations, alors qui ne seront pas soutenues par la société asiatique, comme celle de Paul Pelliot à Dunhuang, où il trouvera des quantités de rouleaux chinois et dans d'autres langues également, qui vont alimenter les recherches des sinologues, mais aussi des spécialistes des langues indo-européennes, dans la mesure où certains documents sont dans des langues qui appartiennent à ce groupe. Donc, la société asiatique est active. Elle l'est donc financièrement jusqu'à une certaine date parce qu'elle peut donner de l'argent. Il faut penser que les fondateurs mondains, entre guillemets, le duc d'Orléans, le duc de Richelieu et d'autres, étaient également généreux et ont contribué, disons, à cette capacité de financement. Plus tard, la société asiatique apportera plutôt un capital intellectuel, de la matière grise, si je puis m'exprimer ainsi, en donnant des directives, en suggérant des noms pour des opérations de recherche qui seront souvent extrêmement fructueuses.
Alors, les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces civilisations. Vous avez parlé des Allemands, il y a aussi les Anglais. Nous sommes parfois dans un contexte de concurrence entre les puissances politiques, mais les savants néanmoins collaborent. Dans quelle mesure les transferts se font-ils ou pas ?
Alors bon, effectivement, la politique vient parfois jouer son rôle. On se souvient par exemple que à la fin du XVIIIe, des discussions entre des savants anglais comme Jones et ses collègues indianistes français étaient parfois un petit peu vives dans la mesure. Mais bon, il y avait quand même, l'un ou l'autre avait raison, les choses finissaient par se reconnaître. La pierre de Rosette est un exemple inverse de ce que la politique a pu faire. Heureusement, l'estampage était disponible en France. On sait qu'il y a eu un petit peu des réticences du côté anglais, mais finalement, les choses se sont passées. Il y aura peut-être plus de tensions avec des savants allemands vers la fin du 19e siècle, dans la mesure où le contexte postérieur à la guerre franco-allemande de 70 a va laisser des traces. Et on a dans le journal asiatique des échos, disons, de ces rivalités, notamment dans le domaine des recherches sur les inscriptions sémitiques. Clermont-Ganneau est très porté à défendre, disons, son précaré et à montrer que la science française est là. Mais d'un autre côté, bon, il y a aussi une réelle proximité d'intérêt et parfois entre les hommes. La société asiatique anglaise est fondée en l'année suivante et d'après les papiers, on voit que le modèle français a été identifié par les orientalistes anglais comme un modèle qui était intéressant, les objectifs fixés sont assez voisins, et les échanges que nous avons conservés de cette époque montrent qu'il y a eu un aller-retour. Avec les Allemands, le modèle français également a été à l'origine de la société orientaliste allemande, la Deutsche Morgenländische Gesellschaft, donc qui, elle, a un nom un petit peu différent, enfin, c'est la société orientale allemande, donc c'est pas asiatique, et c'est dans un contexte un petit peu différent, puisque c'est dans une Allemagne qui est encore divisée qu'elle voit le jour, et elle est justement un moyen, cette fois-ci au niveau allemand, d'établir des relations entre des savants qui sont dispersés dans différents royaumes de l'Allemagne, donc antérieure à 48. Le mouvement des gens, et surtout la correspondance, se fait bien. C'est parfois étonnant de voir à quel point les gens se tenaient au courant de ce qui se passait. Il y avait d'ailleurs dans le journal asiatique, c'est très intéressant, dans les anciens numéros, il y a des chroniques qui sont consacrées justement à ce qui se passe. On annonce que monsieur machin est allé à tel endroit et qu'il en est revenu avec telle chose. On signale aussi les publications nouvelles et on lance un petit peu des appels pour voir si on peut avoir des informations. Donc un réseau qui s'établit, qui bénéficie dans un premier temps de la personnalité de Sylvestre de Sacy, qui est un personnage tellement incontestable que même en dehors de sa discipline, il est reconnu comme un personnage de premier plan. Et je pense que ce capital de réputation dont il jouissait a été finalement extrêmement positif pour les débuts de la société asiatique.
Et par rapport à la colonisation, est-ce que la société asiatique a profité, entre guillemets, des avancées territoriales de la France, par exemple en Indochine ?
Il est indéniable que la colonisation a favorisé des contacts qui autrement n'auraient pas eu lieu. Dans les membres de la société asiatique, on voit d'ailleurs des gens qui sont installés dans des colonies qui sont en train de naître et qui, sans aucun doute, ont été un peu des relais pour, informer la société asiatique de ce qui se passait. Alors, la société asiatique n'est pas fondamentalement un relais du colonialisme. L'esprit de l'époque est quand même celui d'un sentiment de supériorité de l'Europe par rapport à des peuples qu'on considère comme moins avancés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les idéaux de la société asiatique, qui sont des idéaux de nature scientifique, il y a une volonté de comprendre. Par exemple, les recherches sur l'indo-européen n'impliquent pas que l'on dévalorise l'Inde. Au contraire, les langues indo-européennes semblent avoir plutôt un substrat indien. Donc c'est de là-bas que, comme dit la formule latine ex oriente lux, donc il faut aller chercher la lumière en Orient. Ces idéaux de la société asiatique sont véhiculés par ces gens qui, installés au Vietnam, en Inde, etc., sont membres de la société asiatique, correspondent avec elle et éventuellement donnent la possibilité d'avoir un contact local, d'avoir des informations locales. Là encore, je reviens au journal asiatique des premières années, c'est parfois la correspondance de gens qui ne sont pas des savants mais qui sont des commerciaux qui sont en Chine et qui envoient des nouvelles pour dire, voilà, il se passe telle et telle chose, à une époque où les nouvelles fonctionnent en prenant le bateau et en mettant un certain temps à arriver en Europe.
Il y a d'ailleurs des coopérations avec les lettrés locaux. Vous avez organisé un colloque récemment et l'une des communications portait sur l'échange avec les lettrés indiens.
Oui, très naturellement, les orientalistes savent que les gens qui connaissent le mieux la langue et la littérature sont bien sûr des locaux. Avant la société asiatique, dans la jeune école des langues orientales, il y a déjà des lecteurs qui sont venus, par exemple, je pense à des Égyptiens ou des Libanais qui enseignent, et cela ne fait que reprendre, je parle de l'arabe peut-être plus que je ne devrais, mais c'est mon domaine. Dès le XVIIe siècle, on a des Levantins qui sont d'abord à Rome, puis ensuite à Paris, pour enseigner l'arabe, parce qu'on leur reconnaît une légitimité complète pour enseigner leur langue. Et ce mouvement se perpétue avec la société asiatique qui établit de très bons rapports avec des savants dans les différents pays. Je pense, c'est avant bien sûr aussi la fondation de la société asiatique, mais c'est un des membres fondateurs de la société asiatique, Jean-Joseph Marcel, pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Donc c'est un monsieur qui très jeune a appris les langues orientales, qui a pris part à l'expédition d'Égypte en tant qu'imprimeur et une fois sur place, qui a noué des liens avec des savants locaux pour réunir des informations. Il a aussi acquis des manuscrits et il a, alors qu'il faisait partie, disons, d'un appareil militaire et administratif de type oppressif. Il était du côté de l'armée française, donc pas forcément bienvenu, mais il a quand même réussi à établir des liens avec des Égyptiens, dans le but, justement, de mieux comprendre cette société. La différence entre Marcel et Sylvestre de Sacy, c'est que Sylvestre de Sacy est toujours resté à Paris. Marcel avait l'expérience du terrain. Donc c'est là aussi un des points intéressants de la société asiatique, cette mise en contact de gens qui avaient avec l'Orient des rapports de nature très différents, très immatériels dans le cadre de Sylvestre de Sacy, très concrets dans le cas de Marcel qui savait ce qu'était le quotidien des gens du Caire.
Alors nous avons beaucoup parlé de ces milieux savants, mais il y a aussi le reste des Européens qui découvrent par l'entremise, peut-être des décennies après, de la société asiatique, des grands classiques de civilisation étrangère, qui peut-être va avoir un nouveau rapport au texte biblique aussi. Quelles sont les répercussions, peut-être à très long terme, des travaux des chercheurs de la société asiatique sur le reste de la société européenne ?
Alors, le travail éducatif de la société asiatique est un travail lent, parce qu'il est, il se fait en profondeur, il se fait, si vous voulez, en partie à un niveau un niveau un peu ardu, dans la mesure où si vous prenez le journal asiatique, pour revenir à lui, il y a deux choses. Il y a d'une part des traductions, et on voit très bien dans ces traductions un moyen de faire découvrir aux gens de manière assez simple ce que sont les civilisations de l'Orient. Et puis il y a des articles savants qui, eux, demandent des connaissances en langues orientales qui restent bien sûr hors de portée de ceux qui n'ont pas une formation un petit peu avancée dans ces langues. Mais disons qu'il y a un travail assez lent par les membres de la société asiatique pour réussir à faire comprendre de quoi ils s'occupent. Je pense à un exemple classique, Julius de son premier prénom, si j'ose dire, puisqu'il est allemand d'origine, il est venu s'installer en France, il est spécialiste des langues de l'Iran, et il va traduire le Shahnameh, donc l'épopée nationale persane, en français, d'ailleurs une traduction qui continue à être utilisée de nos jours, et elle va être publiée et va donner accès à toute cette, cette épopée absolument fascinante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les manuscrits du Shahnameh sont, un certain nombre d'entre eux du moins, sont illustrés. Et ça va, en quelque sorte, se croiser avec l'intérêt qui devient de plus en plus fort pour l'art oriental. Et donc, si vous regardez dans l'histoire de la peinture persane, des collections de peinture persane, vous voyez que Paris a été un endroit très important. Il y a eu beaucoup de collectionneurs dont les collections par la suite ont été dispersées. Mais à la fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de gens qui collectionnaient de l'art persan et qui, bien sûr, trouvaient les points de contact entre la traduction du Shahnameh et ses belles images, belles miniatures qu'ils exposaient dans leur salon à l'époque. Et donc, c'est un exemple de la façon dont la connaissance de l'Orient, qui est peut-être plus facile quand elle passe par le visuel, va se trouver soutenue par des travaux savants qui, eux, portent sur les textes eux-mêmes, pas simplement sur l'illustration. Et puis alors, bien sûr, le deuxième aspect, c'est bien sûr l'histoire de l'art plus classique, les objets, avec, on en a parlé tout à l'heure, l'archéologie et la découverte d'un certain nombre de restes qui vont prendre le chemin de musées comme le Louvre. Le Louvre va être là aussi un endroit où des membres de la société asiatique vont travailler en tant cette fois-ci que conservateurs au musée du Louvre et vont contribuer donc à enrichir des collections qui, exposées au grand public, vont le familiariser avec des civilisations de l'Orient proche et lointain.
Et pourquoi pas inspirer les artistes et les architectes sur la question des philosophies? Est-ce que les travaux d'un Fouché, par exemple, sont importants pour les liens qu'aujourd'hui notre Occident entretient avec le bouddhisme, par exemple?
Oui, disons que pour l'Orient plus lointain, donc l'Inde, la péninsule indochinoise, pour prendre cet exemple, il y a un peu le même phénomène que je décrivais à l'instant, dans la mesure où il faut penser que les textes qui sont dépouillés avec beaucoup de ferveur par ces pionniers des études, enfin depuis le sanskrit jusqu'aux langues de l'Indochine, coïncide aussi avec des grandes découvertes comme Angkor, dont bien sûr la compréhension passe justement par les textes, dans la mesure où la disposition d'Angkor n'est pas complètement le fruit du hasard, mais représente, transcrite sur le terrain, une interprétation de l'univers dont les textes eux-mêmes sont les porteurs.
Et alors, au XXe siècle, comment se développe la société asiatique? Comment évolue-t-elle? Est-ce qu'on va vers de plus en plus de spécialisation, vers une expansion presque infinie des champs d'études?
Alors, plus le temps passe, plus effectivement... Alors, d'une part, nos grands ancêtres étaient peut-être des gens plus généralistes, avec des vues peut-être plus vastes, dans la mesure où ils maîtrisaient différentes langues. Enfin, c'était très courant, par exemple, pour un orientaliste spécialiste du Proche-Orient, d'apprendre donc l'arabe, le turc et le persan. C'était le cursus classique. Maintenant, c'est un peu moins fréquent. Et d'autre part, les champs d'investigation se sont enrichis de manière exponentielle, ce qui fait que maîtriser l'ensemble d'un domaine relève de la mission impossible. Enfin, je me souviens d'Oleg Grabar, le spécialiste d'histoire de l'art islamique, qui me disait que quand il avait connu, passant en bibliothèque un an et en lisant de manière assidue, on faisait pratiquement le tour de toute la bibliographie publiée en langues occidentales et même en russe, parce que bon, comme il connaissait le russe, il me disait qu'à la fin de sa vie, il avait renoncé à suivre le mouvement parce que les publications étaient tellement nombreuses que y passer son temps n'y suffisait pas, et surtout les lieux de publication s'étaient considérablement multipliés. Avant, c'était Londres, Paris, Berlin, on en faisait le tour. De nos jours, c'était devenu tellement foisonnant qu'il était impossible de le faire. Donc il y a effectivement une spécialisation croissante. Alors bien sûr, tout orientaliste qui serait respecte, fait des études qui lui permettent de découvrir les différents aspects et de savoir à peu près ce qui se passe dans les domaines concernés, mais ça ne lui permet pas d'être le spécialiste de tout dans un domaine donné. Donc il y a une spécialisation. Est-ce que c'est un mal ? Bon, ça, c'est à d'autres de décider, mais c'est un mouvement qu'on observe aussi bien pour l'orientalisme, d'ailleurs, que pour d'autres disciplines.
Et c'est intéressant parce que tous ces spécialistes qui font partie de la société asiatique, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ces réunions, dans ce journal qui continue d'exister ? Qu'est-ce qu'un spécialiste des hiéroglyphes égyptiens va trouver chez son collègue qui s'occupe peut-être du Tibet, par exemple ?
Parfois des idées, parce que, disons que ce sont des sciences qui connaissent des renouvellements dans la mesure où on introduit d'autres problématiques, on a aussi d'autres outils. Il est certain, par exemple, que l'informatique a considérablement bouleversé les choses. La photographie, même tout simplement, pour des gens qui travaillent sur la paléographie, on est passé d'une époque où on faisait des dessins à une époque où on prend avec son appareil photo une centaine de photos en un rien de temps. Et après ça, on a une documentation qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus précise, mais qu'il faut aussi traiter. Alors, donc, on invente d'autres façons de traiter ce matériel. On a également, bien sûr, un nombre d'outils de travail. Je pense aux dictionnaires, mais je pense aussi à des bases de données qui sont des choses absolument extraordinaires qui permettent, du coup, de croiser des informations. Je voyais l'autre jour à propos de Gaston Viette, qui a été un grand spécialiste donc, du monde arabe, en particulier de l'Égypte, et qui s'est beaucoup intéressé, puisqu'il a été un temps directeur du musée arabe du Caire, aux inscriptions, bien sûr, mais aussi aux objets en métal. Il avait, à l'époque, réussi à faire une sorte de corpus des objets en métal, qui continue à avoir son sens, mais qui s'est accru aussi considérablement. Et maintenant, c'est l'informatique qui permet de garder la trace de tous ces objets qui circulent, qui apparaissent au fil des ans dans les ventes aux enchères, par exemple. Donc, on ne travaille plus de la même façon. On travaille avec... l'anthropologie, par exemple, a bouleversé considérablement l'approche que nous avons les uns et les autres de notre domaine. Soulève de nouvelles questions. Et puis, il faut bien le reconnaître, nous sommes en permanence exposés à des remises en question dans la mesure où il y a encore de nos jours, il y a de nouvelles choses qui sortent, que nous découvrons et qui nous invitent à nous remettre en question.
Justement, aujourd'hui, la société asiatique fête ses 200 ans. Quels champs vous paraissent les particulièrement prometteurs pour l'avenir ?
Il y a de toute façon tout ce qui est la recherche archéologique qui est un domaine fascinant dans la mesure où on découvre des choses et avec des techniques. Par exemple, j'entendais comme vous l'autre jour les récits donc des premières fouilles en Mésopotamie, à Hors-Savane en particulier. Et donc, on voit qu'à l'époque, les gens travaillaient de manière assez rapide. De nos jours, avec le même terrain, on n'en découvrirait pas autant à la fois, mais d'un autre côté, on récupérerait plus d'informations parce que les fouilles sont beaucoup plus précises. Donc l'archéologie est certainement un domaine où il y a des choses à découvrir. Je pense que les textes aussi sont un domaine où il y a encore beaucoup à faire. Il y a énormément de textes qui ne sont pas publiés, heureusement qu'ils de plus en plus sont publiés, mais parfois il faut que le hasard vous mette sur la piste, par exemple, d'un manuscrit qui contient une version de meilleure qualité qu'une autre. À l'époque où le livre était manuscrit, la transcription des textes impliquait un certain nombre d'erreurs, et donc toutes les copies d'un texte ne sont pas également bonnes. Je lisais l'autre jour, pour la énième fois, un livre qu'un arabisant russe célèbre, Krachkovski, a écrit sur ses souvenirs avec les manuscrits, et où justement il raconte de temps à autre des histoires qui lui sont arrivées d'avoir travailler sur un texte et brusquement de découvrir une version, un manuscrit de meilleure qualité qui l'obligeait à reprendre tout et à remettre les choses au point. Donc voilà, on est en quelque sorte sans arrêt confronté à ce genre de choses. Et puis il y a bien sûr un autre aspect de l'orientalisme que la société asiatique n'a peut-être pas assez cultivé, qui est l'anthropologie, dans laquelle je crois qu'il y a aussi énormément de choses à faire et où justement, il y a peut-être un travail de collaboration, d'équipe, qui est plus important que dans les autres domaines, encore que l'archéologie suppose des équipes, mais enfin, je pense au travail des philologues, qui est plus un travail personnel. Mais dans le domaine de l'anthropologie, je pense justement que les regards croisés des spécialistes de différents aspects d'une même civilisation peuvent beaucoup apporter au développement de nos études.
Et François Desroches, pour finir, qu'est-ce que ça signifie être orientaliste aujourd'hui ? Est-ce que ça a encore du sens, ce mot ?
Alors, pour moi, oui, ça a toujours du sens. Bon, j'ai lu, Et ego, le livre de Saïd, avec lequel, bon, je ne suis pas fondamentalement d'accord. Je pense que, bon, c'est un problème auquel je me heurte, par exemple, dans mon propre domaine. Qu'est-ce que c'est que les études sur le monde musulman ? Comment le définir ? Dans la mesure où c'est un domaine qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la Chine. Donc on est toujours avec des périphrases pour essayer de dire les choses de manière simple. Alors, pour définir notre propre domaine, je pense que orientaliste n'a pas, pour moi du moins, de connotation péjorative et reflète une situation qui est réelle. Alors, bien sûr, est-ce que l'Afrique du Nord fait partie de l'Orient ? On peut effectivement géographiquement se poser la question, mais je pense que c'est le terme qui définit le mieux notre profession. Nous nous occupons de l'Orient dans un sens large, en laissant de côté, bien sûr, en arrêtant de faire la tour de la Terre quelque part à l'extrémité du Kachamka, sans passer par les Amériques que nous laissons à d'autres.
Eh bien, un grand merci François Desroches de nous avoir raconté ces deux siècles de travaux de la société asiatique, ce qu'ils ont pu apporter au monde savant, mais aussi à notre culture européenne. Je rappelle donc que la société asiatique fête ses 200 ans le 1er avril 2022. Elle a été donc créée en 1822. Merci et à bientôt.
Merci à vous. Thank you.